Jean-Marc Aveline, vous êtes l'actuel évêque auxiliaire de Marseille et vous avez une grande particularité, vous êtes né en Algérie, à Sidi Bel Abbès, un des rares évêques français sans doute à être né en Algérie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous poursuit, qui vous guide? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, cet ancrage en Algérie, pour votre mission d'église aujourd'hui?
Oui, je pense que ça fait partie de mon histoire, de l'histoire de ma famille. J'étais là-bas l'aîné de la quatrième génération à être né en Algérie. Ma famille est une famille modeste, ce n'était pas des colons. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir que sous l'appellation pied noir, il y avait en fait au moins deux catégories de personnes. Ceux qui étaient venus et qui étaient des colons et qui avaient de l'argent et qui d'une certaine manière avaient quand même pu anticiper les événements qui se sont passés dans les années 60, qui avaient un pied-à-terre en France et qui ont fait ensuite beaucoup parler d'eux. Et puis il y avait ceux qui, comme ma famille, étaient des gens modestes, qui étaient partis à la fin du 19e siècle, à l'époque où les flux migratoires en Méditerranée allaient plutôt du nord vers le sud, pour chercher du travail. Les miens venaient beaucoup d'Andalousie et étaient des ouvriers agricoles. Et d'une certaine façon, ma famille, mais encore une fois, il m'a fallu du temps pour comprendre tout ça et pour sortir des préjugés sur les pieds noirs. Ma famille, au fond, était plus proche des Arabes futurs Algériens que des colons que nous ne connaissions pas, puisqu'ils travaillaient avec eux. Pour moi, cette histoire qui me constitue est très importante, parce qu'il ne faut jamais négliger la façon dont le Seigneur a préparé en nous l'apôtre dont il avait besoin. C'est ça qu'il faut respecter. Et donc j'essaie de plus en plus de, sans revendiquer quoi que ce soit, mais de m'accorder spirituellement à ce que le Seigneur a choisi pour moi comme préparation. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour ce peuple pied noir de trouver sa vocation, d'autant que il a lui-même été instrumentalisé, et il est aujourd'hui instrumentalisé, par des discours politiques qui profitent de sa détresse pour soutenir des idées d'exclusion ou de xénophobie. Or, ce peuple a un message à dire. Il a le message à dire que, bon, bien sûr, il a connu les difficultés de la migration, il a connu la dureté de ce qu'est le fait de sentir la colère de ceux qui vous rejettent et le mépris de ceux qui ne vous accueillent pas. Il a connu ces difficultés que bien d'autres peuples dans le monde connaissent aujourd'hui. Et donc, il est bien placé pour pouvoir sentir que c'est rare quand on quitte son pays natal de bon gré et sentir aussi qu'on ne peut jamais arracher du cœur d'un homme l'amour de son pays natal. Et donc il est bien placé pour ça. Et il est bien placé aussi pour dire que, dans la simplicité d'une vie modeste, la fraternité est possible entre chrétiens et musulmans, et aussi juifs. Ce qu'on m'a raconté de ma famille me montre bien que c'était ça la réalité. Alors bien sûr, il y avait des choses qu'il fallait changer. Il y avait certainement d'autres façons de le faire que la façon dont ça a été fait. Mais aujourd'hui, ce peuple peut aussi être porteur d'un message très positif qui est à l'opposé des idéologies politiques auxquelles on essaye de le récupérer.
Jean-Marc Aveline, vous avez parlé d'être un apôtre. Un apôtre du Christ, et vous avez, dans votre parcours, fait de la christologie et autour de différentes religions. J'imagine que ce passé aussi vous a porté à ces études pour un dialogue encore plus fécond, comme vous venez de nous le dire.
Oui, j'ai été conduit sur le chemin du dialogue interreligieux par le fait qu'en 1991, on avait dû fermer à Marseille le séminaire et que le cardinal Coffi, qui était archevêque de Marseille, m'avait alors demandé de chercher de quelle façon on pourrait, à Marseille, maintenir un centre de formation théologique qui soit original, mais enfin voilà, qui puisse exister. Et c'est là qu'on s'était dit, vu ce qu'est Marseille, 1 million d'habitants, sur lesquels 200 000 musulmans à peu près, un peu plus même, 80 000 juifs, 20 000 bouddhistes, de grandes pagodes, 80 000 arméniens, 80 000 comoriens, des maronites, des grecs catholiques aujourd'hui, des chaldéens. C'est à cause de ça que j'avais proposé au cardinal Coffi, si on doit créer quelque chose, autant orienter ce centre de formation théologique sur les questions que pose à la foi chrétienne, la prise au sérieux de la pluralité des religions et de leurs prétentions à la vérité. Et donc c'est par ce biais-là que je suis venu sur ce terrain, et c'est chemin faisant que j'ai pris conscience de ma propre histoire et de ce qu'elle pouvait apporter à la prise au sérieux de ces questions-là, en particulier l'importance de l'amitié, l'importance des liens de la vie ordinaire, et puis l'importance aussi pour les chrétiens d'être disciples du Christ. Quand le Seigneur emploie ce mot-là, c'est pour dire qui veut partir à ma suite doit prendre sa croix.
Monseigneur Jean-Marc Aveline, vous parlez d'amitié, vous parlez de disciples, et auparavant vous nous avez dit aussi l'importance des valeurs que nous devons découvrir pour des rencontres authentiques. Quels sont les points de force sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour rencontrer les autres religions?
En relisant récemment pas mal de choses sur Louis Massignon, je me suis dit qu'il y avait chez ce grand islamologue, qui lui aussi est revenu à la foi chrétienne grâce à la prière de cette famille musulmane avec laquelle il avait échangé lorsqu'il était à Bagdad, il y a une attitude qui me paraît fondamentale chez Massignon. C'est pas simplement d'accumuler des connaissances objectives sur l'islam, c'est d'essayer de comprendre l'islam de l'intérieur. C'est de chercher le meilleur de l'islam pour y faire consonner le meilleur du christianisme. Massignon était incollable sur l'islam. C'est lui qui a formé un grand nombre d'intellectuels musulmans. Mais ce qu'il a apporté de plus important ne venait pas de cette avalanche de connaissances, mais plutôt de cette empathie existentielle. Spirituellement, il avait trouvé, à mon avis, la bonne attitude. Cette bonne attitude, je l'ai retrouvée chez quelqu'un dont on parle peu quand on parle de dialogue islamo-chrétien, qui est Jules Monchanin, qui avait lu le long commentaire de la thèse de Massignon sur Al-Hajj qu'avait fait Joseph Maréchal. Et Monchanin, ça l'avait éclairé sur le fait qu'on pouvait, dans l'ecclésiologie, faire entrer l'importance de mystiques non chrétiens. Et Monchanin a entraîné dans son sillage de Lubac. Et de Lubac a, comme théologien, poser les choses. Moi, ça m'inspire beaucoup, ça, c'est-à-dire pour de Lubac, le travail du théologien consiste aussi à chercher scrupuleusement les traces du désir de Dieu dans l'histoire religieuse de l'humanité. Et de Lubac a écrit des livres sur le bouddhisme. Et Monchanin, ensuite, est parti plutôt en Inde. C'est cette posture-là, à la fois spirituelle, puis, avec de Lubac, théologique, qui consiste à chercher les traces du désir de Dieu dans l'histoire religieuse de l'humanité et à considérer, à cause de ça, avec le respect sincère dont parlera Nostra Aetate, ces sources, qu'elles soient rituelles, scripturaires, toutes ces manières d'agir et de vivre, comme dit le Concile, où des hommes et des femmes vont puiser pour entretenir en eux ce goût et ce désir de Dieu. Et c'est cette posture-là qui me paraît la plus importante. Et alors du coup, c'est ça qu'on peut faire aujourd'hui. Si la relation, encore une fois, est d'amitié, et si on regarde avec ce désir spirituel et théologique de trouver ces traces du mystère pascal.
Vous nous invitez à changer de regard. Il y a une expression qui dit ne pas avoir forcément Dieu de son côté, mais être du côté de Dieu. C'est une expression qu'a reprise un père que vous aimez beaucoup, le père Étienne Renaud. Est-ce que c'est ce changement d'optique?
Oui, ça m'évoque aussi un texte peu connu du cardinal Ratzinger, qui disait dans 1965 ou 7, je ne me souviens plus, c'était publié dans le dernier chapitre de Le Nouveau Peuple de Dieu. Il disait au fond, l'Église n'accompagne pas des peuples vers leur panthéon en discutant tout en chemin et en dialoguant courtoisement avec les uns ou les autres. Non, elle accompagne la marche de Dieu vers les peuples du monde. C'est en cela qu'elle ne se considère pas elle-même comme une voie de salut qui devrait, à la mode du monde, dialoguer courtoisement et respectueusement très bien. Non, elle est le sacrement, en quelque sorte, dans le Christ. Elle est le sacrement du salut, et c'est très différent. Et c'est ça que je retrouve dans l'expression d'Étienne Renaud. On trouve aussi cela dans des textes de Christian de Chergé, qui, à mes yeux, a beaucoup reçu de Lubac sur l'extension, comme disait de Lubac, du concept de la communion des saints. Quel est le sens divin de se demander Christian de Chergé, hein, quel est le sens divin de ce qui humainement nous sépare? Il disait ça, il disait, après avoir passé tant de temps à travailler avec des musulmans, à avoir fréquenté avec eux le Coran, vécu des prières à deux voix, à portée de voix, il me reste cette question lancinante, il me tarde de pouvoir la poser au Père, disait-il. Quel est le sens divin de ce qui humainement nous sépare? On est prompt à trouver du sens divin à ce qui nous réunit, mais à ce qui nous sépare, à ce qui fait que Et alors il répondait, bah, premièrement, ce sens, il est divin, donc ne me le demandez pas. Seul Dieu connaît, moi je ne peux pas savoir maintenant. Je sais qu'en Christ, tout est accompli. Puis, si je ne le connais pas, rien ne m'interdit d'espérer qu'un jour viendra où, réunis dans la maison du Père, nous comprendrons mieux comment des fidélités à des normes de foi différentes nous ont pourtant conduits vers un même puits. Et il terminait en disant « Ce que je peux espérer, il me revient à moi chrétien, plus encore qu'à d'autres parce que ma foi est centrée sur l'incarnation, il me revient à moi chrétien de tout faire pour essayer de l'incarner. Pourquoi on s'engage dans le dialogue interreligieux ? Pour tenter d'incarner cette espérance qu'un jour viendra, où réunis dans la maison du Père, nous le savons puisque tout est accompli, nous comprendrons mieux comment des fidélités à des normes de foi différentes nous ont pourtant conduits vers un même puits. »
Merci Jean-Marc Aveline.